Le journal de George Fox 1657-1661 de retour en Angleterre fin du volume 1 page 3 après cette réunion, je visitai des assemblées d'amis jusqu'à ce que j'arrive à Lancaster, de là j'allai chez Robert Withers puis à Arnside, où je tins une réunion générale pour tous les amis des comtés de Westmoreland, Cumberland et Lancashire. Cette réunion fut calme et paisible, et la présence vivante du Seigneur était parmi nous. Je revins avec Robert Withers et les amis se séparèrent, frais dans la vie et la puissance du Christ, en lesquels ils avaient domination, étant affermis sur lui, le rocher et le fondement céleste. Plusieurs rustres, serviteurs d'un juge de paix voisin nommé ce George Middleton, vinrent, pensait-on, pour susciter quelques troubles, mais la réunion était terminée et ils n'y firent rien. Toutefois, ils interceptèrent trois femmes amies qui rentraient chez elles, les raillant avec effronterie, et l'un d'eux se conduisit envers elles de façon très injurieuse et indécente. Le même homme avait aussi maltraité d'autres amis, et il était si violent qu'il tenta d'en frapper certains avec une hache, mais il en fut empêché par quelques-uns de ses compagnons. Une autre fois, ce même homme s'en prit à six amis qui allaient à une réunion à Yélan, et il les frappa et les maltraita au point qu'il leur meurtrit le visage et fit couler beaucoup de leur sang, les blessant très grièvement, l'un d'eux en plusieurs endroits du corps. Pourtant ils ne levèrent pas la main contre lui, mais lui présentèrent le dos et les joues pour qu'il les frappe. Le lendemain, de chez Robert Withers, j'allai à Swarthmoor, Francis Rowgill et Thomas Curti m'accompagnant. Je n'y étais pas depuis longtemps lorsque Henry Porté, un juge de paix, envoya un mandat par le connétable en chef et trois connétables subalternes pour m'appréhender. J'en avais eu le pressentiment auparavant, et comme j'étais dans le salon avec Richard Richardson et Margaret Fell, quelques-uns de ses serviteurs vinrent lui dire que des hommes étaient venus pour fouiller la maison à la recherche d'armes et qu'ils montaient dans certaines chambres sous ce prétexte. Il me vint d'aller à leur rencontre, et tandis que je passais près de quelques-uns d'entre eux, je leur parlai, alors ils me demandèrent mon nom. Je le leur dis sans hésiter, et ils mirent la main sur moi, disant que j'étais l'homme qu'ils cherchaient, et m'emmenèrent à Ulverstone. Là, ils me gardèrent toute la nuit chez le connétable, et placèrent une garde de 15 ou 16 hommes pour me surveiller. Certains d'entre eux s'assirent dans la cheminée, de peur que je ne m'échappe par la cheminée, nourrissant de si sombres imaginations. Ils furent très grossiers et impolis envers moi, et ne voulurent ni me laisser parler aux amis ni permettre aux amis de m'apporter le nécessaire. Ils les repoussèrent violemment et maintinrent sur moi une forte garde. Ils étaient très méchants et grossiers, et se vantaient beaucoup à mon sujet. L'un des connétables, nommé Ashburnbaum, dit s'il ne pensait pas que 1000 hommes auraient pu me prendre. Un autre des connétables était un homme très méchant nommé Mount. Il dit il aurait traité le juge Fell lui-même ainsi s'il avait été vivant, et il avait un mandat contre lui. Vers 6 heures le lendemain matin, je mettais mes bottes et mes éperons pour aller avec eux devant un juge de paix. Mais ils m'arrachèrent mes éperons, retirèrent mon couteau de ma poche, et me hâtèrent vers la ville, avec un détachement de cavaliers et une foule de gens, ne me permettant pas d'attendre l'arrivée de mon propre cheval. Après avoir parcouru environ un quart de mille avec eux, quelques amis, avec Margaret Fell et ses enfants, vinrent à ma rencontre. Alors une grande troupe de cavaliers se rassembla autour de moi dans une rage et une fureur folle, criant « Vont-ils le délivrer, vont-ils le délivrer ?» Alors je dis « Voici mes cheveux, voici mon dos, voici mes joues frappées. » Cela les calma un peu. Ensuite, ils amenèrent un petit cheval, et deux d'entre eux soulevèrent l'une de mes jambes et mirent mon pied à l'étrier. Et deux ou trois, en levant mon autre jambe par-dessus, me posèrent sur le petit cheval, derrière la selle, puis ils menèrent le cheval par le licol, mais je n'avais rien à quoi me tenir. Quand ils furent assez loin hors de la ville, ils battirent le petit cheval et le firent ruer et galoper, alors je glissai et tombai, et je leur dis « Ils ne doivent pas maltraiter la bête ». Ils furent très irrités de me voir descendre, et me saisirent par les jambes et les pieds, me remirent sur le même cheval derrière la selle, et menèrent le cheval sur environ 2 milles, jusqu'à ce que nous arrivions à une grande eau appelée Carter Ford. À ce moment, mon propre cheval nous avait rejoints, et comme l'eau était si profonde que leur petit cheval pouvait à peine me porter au travers, ils me laissèrent monter sur mon propre cheval, y étant persuadés par certains de leur compagnie, et ils firent passer mon cheval dans l'eau. Un homme méchant s'agenouilla, et levant les mains, bénit Dieu que j'eusse été pris. Quand j'eus traversé les sables, je leur dis que j'avais entendu dire que j'avais la liberté de choisir devant quel juge de paix je serais conduit, mais les connétables crièrent « Non, je ne le devais pas ». Ils me menèrent à Lancaster, à environ 14 000. Ils s'attendaient à un grand triomphe, mais tandis qu'ils me conduisaient, je fus poussé à chanter des louanges au Seigneur dans sa puissance triomphante sur toutes choses. Lorsque j'arrivai à Lancaster, l'esprit du peuple était fortement échauffé, je me tins là et les regardai fixement, et ils crièrent « Regardez ses yeux ». Au bout d'un moment je leur parlai, et ils se calmèrent assez. Puis vint un jeune homme qui me conduisit chez lui, et peu après, les officiers m'emmenèrent chez le major Porté, le juge de paix qui avait fait envoyer le mandat contre moi. Il avait plusieurs autres personnes avec lui. Quand j'entrai, je dis « Que la paix soit parmi vous ». Porté me demanda « Pourquoi je venais dans le pays en ce temps troublé ?» Je lui dis « Pour visiter mes frères ». Mais dit-il « Vous tenez de grandes réunions un peu partout ». Je lui répondis que, même si nous en tenions, nos réunions étaient connues dans tout le pays comme étant paisibles, et que nous étions un peuple pacifique. Ils disent « Nous voyons le diable sur le visage des gens ». Je lui dis « Si je voyais un ivrogne, ou un blasphémateur, ou un homme chagrin et emporté, je ne pourrais pas dire que je vois l'Esprit de Dieu en lui ». Et je lui demandai s'il pouvait voir l'Esprit de Dieu, il dit « Nous crions contre leur ministre ». Je lui dis « Tant que nous étions comme seuls, assis sous les prêtres, et courant ça et là avec leurs paquets de lettres, on ne nous appelait jamais gens pestilentiels ni fauteurs de sectes, mais lorsque nous décidâmes d'exercer nos consciences envers Dieu et les hommes, on nous appela gens pestilentiels, comme Paul l'avait été ». Il dit que nous savions assez bien nous exprimer, et qu'il ne discuterait pas avec moi, mais qu'il me retiendrait. Je désirais savoir pour quelle raison, et par quel ordre il avait envoyé son mandat contre moi, et je me plaignis auprès de lui des mauvais traitements que les connétables et autres officiers m'avaient infligés après m'avoir pris et en m'amenant là. Il n'en tint aucun compte, mais me dit qu'il avait un ordre, mais ne me le laisserait pas voir, car il ne révélerait pas les secrets du roi, et en outre, disait-il, un prisonnier n'a pas à voir pourquoi il est incarcéré. Je lui dis que ce n'était pas raisonnable, car comment quelqu'un pourrait-il alors se défendre? Je dis que je devais en avoir une copie. Mais il dit qu'il y eut jadis un juge, qui infligea une amende à quelqu'un pour avoir laissé un prisonnier une copie de son ordre d'écrou Mitimus, et dit-il, « J'ai un vieux greffier, bien que je sois un jeune juge de paix. » Puis il appela son greffier en disant, « Ce n'est pas encore prêt, apporte-le, entendant par là le Mitimus. » Mais comme ce n'était pas prêt, il me dit que j'étais un perturbateur de la nation. Je lui dis que j'avais été une bénédiction pour la nation, en est par la puissance et la vérité du Seigneur, et que l'Esprit de Dieu, dans toutes les consciences, en témoignerait. Alors il m'accusa d'être un ennemi du roi, que je m'efforçais de soulever une nouvelle guerre et de replonger la nation dans le sang. Je lui dis que je n'avais jamais appris les postures de guerre, mais que j'étais pur et innocent comme un enfant dans ces choses, et que, par conséquent, je parlais avec assurance. Alors le greffier arriva avec le Mitimus, et on envoya chercher le geôlier, à qui l'on ordonna de me prendre, de me mettre dans la « Dankouze », la cellule obscure, de ne laisser personne venir me voir, et de me garder là en prisonnier étroitement détenu jusqu'à ce que je sois délivré par le roi ou le parlement. Ensuite le juge de paix demanda au connétable où était mon cheval, car j'entends, dit-il, qu'il a un bon cheval, avez-vous amené son cheval? Je lui dis où était mon cheval, mais il n'y toucha pas. Comme on me conduisait à la prison, le connétable me rendit mon couteau, puis me demanda de le lui donner. Je lui répondis que non, il n'avait pas été assez civil avec moi. Alors on me mit en prison, et le sous-geôlier était un homme très méchant nommé Randy, qui était d'une grossièreté et d'une cruauté extrême, et bien des fois il ne me laissait pas faire entrer de nourriture, sauf ce que je pouvais passer sous la porte. Beaucoup vinrent me regarder, certains avec rage, très impolis et grossiers. Une fois deux jeunes prêtres vinrent, et ils furent très injurieux. Les gens les plus vils n'auraient pas pu faire pire. Parmi ceux qui vinrent ainsi se trouvait la femme du vieux Preston de Rauch. Elle m'adressa beaucoup de paroles injurieuses, me disant qu'on devait me couper la langue et que je devais être pendu, me montrant la potence. Mais le Seigneur la retrancha, et elle mourut dans un état misérable. Étant maintenant étroitement détenue dans la prison commune de Lancaster, je priai Thomas Cumin et Thomas Green d'aller trouver le geôlier, qui demandait une copie de mon Mitimus afin que je sache pour quelle raison j'étais incarcéré. Ils y allèrent, et le geôlier répondit qu'il ne pouvait en donner une copie, car autrefois quelqu'un avait été condamné à une amende pour l'avoir fait, mais il leur donna la liberté de le lire. Au mieux de leur souvenir, les faits qui m'y étaient reprochés étaient que j'étais une personne généralement soupçonnée d'être un perturbateur habituel de la paix de la nation, un ennemi du roi, et un des principaux soutiens de la secte des Quakers, et que moi, avec beaucoup d'autres de mon opinion fanatique, avais récemment tenté de soulever des insurrections dans ces parties du pays et d'ensanglanter tout le pays. Pour cette raison, le geôlier avait ordre de me garder en sûreté jusqu'à ce que je sois relâché par ordre du roi ou du parlement. Lorsque j'eus compris les principaux points de l'accusation contenue dans le Mitimus, j'écrivis une réponse simple et directe pour la défense de mon innocence sur chaque point particulier, comme suit, « Je suis prisonnier à Lancaster, incarcéré par le juge de paix Porté. Je ne peux obtenir une copie du Mitimus, mais on me dit que les expressions qu'il contient sont très mensongères. comme que je suis, généralement soupçonné d'être un perturbateur habituel de la paix de la nation, un ennemi du roi, et que moi, avec d'autres, je m'efforcerai de soulever des insurrections pour ensanglanter la nation. Tout cela est absolument faux, et en chaque partie de cela, je le nie, car je ne suis pas une personne généralement soupçonnée de troubler la paix de la nation, et je n'ai donné aucun motif à un tel soupçon, car autrefois, dans tout le pays, j'ai été éprouvé sur ces choses. Au jour d'Olivet, on m'arrêta sous prétexte de lever des armes contre lui, ce qui était également faux, car je n'avais rien à voir avec le fait de lever des armes. Pourtant, on me prit alors prisonnier pour Londres, et on me conduisit devant lui. Là, je me justifiai et je niais avoir tiré quelque arme charnelle que ce soit contre lui, ou contre quelque homme sur la terre, car mes armes sont spirituelles, elles ôtent l'occasion de la guerre et conduisent à la paix. Après que j'eus déclaré cela à Olive, il me remit en liberté. Ensuite, je fus pris et envoyé en prison par le major Seely, en Cornouailles. Lorsque je fus amené devant le juge, Seely témoigna contre moi, que je l'avais pris à part et lui avait dit que je pouvais lever 40 000 hommes en une heure pour plonger la nation dans le sang et ramener le roi Charles. Cela aussi était absolument faux, un mensonge de sa propre invention, comme on le prouva alors contre lui, car je ne lui ai jamais dit un tel mot. Je n'ai jamais été dans aucun complot, je n'ai jamais pris aucun engagement ni serment, ni jamais appris des postures de guerre. Comme ces accusations étaient fausses contre moi alors, ainsi le sont celles-ci maintenant, qui viennent du major Porté, récemment nommé juge de paix, mais qui manquait auparavant de pouvoir pour exercer sa cruauté contre nous, ce n'est que la méchanceté du vieil ennemi. Car je ne suis pas un perturbateur de la paix de la nation, et ne l'ai jamais été, mais je recherche la paix de la nation et de tous les hommes, et je défends la paix de toutes les nations, et la paix des hommes sur la terre, et je souhaite que toutes les nations et tous les hommes connaissent mon innocence en ces choses. Et tandis que le major Porté a dit que je suis un « ennemi du roi », cela est faux, car mon amour va à lui et à tous les hommes, quand bien même ils seraient ennemis de Dieu, d'eux-mêmes et de moi. Et je peux dire que c'est du Seigneur qu'il a été ramené, afin d'abaisser beaucoup de ceux qui avaient été injustement placés en position de pouvoir, ce dont j'avais prophétisé 3 ans avant son retour. C'est une grande erreur qu'ils disent que je suis un ennemi du roi, car je n'ai aucune raison de l'être, puisqu'il n'a rien fait contre moi. Mais j'ai été souvent emprisonné et persécuté ces 11 ou 12 dernières années par ceux qui étaient contre le roi et son père, à savoir le parti par lequel Porté fut fait major et pour lequel il porta les armes, mais non par ceux qui étaient pour le roi. Je n'ai jamais été un ennemi du roi, ni de la personne d'aucun homme sur la terre. Je suis dans l'amour qui accomplit la loi, qui ne pense aucun mal, mais aime même les ennemis, et je voudrais que le roi soit sauvé, et parvienne à la connaissance de la vérité, et soit amené à la crainte du Seigneur pour recevoir sa sagesse d'en haut, par laquelle toutes choses ont été faites et créées, afin qu'avec cette sagesse il puisse ordonner toutes choses à la gloire de Dieu. Là où il m'appelle un des principaux soutiens de la secte des Quakers, je réponds : les Quakers ne sont pas une secte mais sont dans la puissance de Dieu, qui existait avant les sectes, et ils témoignent de l'élection d'avant le commencement du monde, et sont venus vivre dans la vie dans laquelle vivaient les prophètes et les apôtres qui ont donné les Écritures. C'est pourquoi nous sommes haïs par des hommes envieux, irrités, méchants et persécuteurs. Mais Dieu est le soutien de nous tous par sa puissante puissance, et il nous préserve de la colère des méchants qui voudraient nous engloutir. Et tandis qu'il a dit que moi, avec d'autres de mon opinion fanatique, comme il l'appelle, j'ai récemment cherché à soulever des insurrections et à ensanglanter tout le royaume. C'est entièrement faux, je suis en ces choses comme un enfant et je n'en sais rien. Je n'ai jamais appris les postures de guerre, mes armes sont spirituelles et non charnelles, car je ne combats pas avec des armes charnelles. Je suis un disciple de celui qui a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Et bien que ces mensonges et calomnies soient élevés contre moi, je nie avoir tiré quelque arme charnelle que ce soit contre le roi ou le parlement, ou contre quelque homme sur la terre, car je suis venu au terme de la loi, d'aimer les ennemis, et de ne pas lutter contre la chair et le sang, mais je suis dans ce qui sauve les vies des hommes. Je témoigne contre tous les meurtriers, comploteurs, et tous ceux qui voudraient faire de telles choses pour ensanglanter la nation, car il n'est pas dans mon cœur de faire détruire la vie d'aucun homme. Et quant au mot fanatique qui signifie furieux, sot, fou, etc., il aurait pu se considérer lui-même avant d'employer ce mot, et apprendre l'humilité qui précède l'honneur. Nous ne sommes ni furieux, ni sots, ni fous, mais par patience et douceur nous avons supporté mensonges, calomnies et persécutions pendant de nombreuses années, et nous avons subi de grandes souffrances. L'homme spirituel, qui ne lutte pas contre la chair et le sang, et l'esprit qui reprend le péché à la porte, qui est l'esprit de vérité, de sagesse et de jugement saint, n'est pas fou sauf furieux, ce que fanatique signifie, mais tous sont d'un esprit fou, furieux et sot, ceux qui luttent contre la chair et le sang, avec des armes charnelles dans leur fureur, leur sottise et leur rage. Ce n'est pas l'esprit de Dieu, mais celui de l'erreur, qui persécute dans un zèle fou et aveugle, comme Nebuchadnezzar et Saul. Puisqu'il m'est ordonné d'être détenu prisonnier jusqu'à ce que je sois délivré par ordre du roi ou du parlement, j'ai donc écrit ces choses pour qu'elles vous soient présentées, au roi et au parlement, afin que vous les considériez avant d'agir en quoi que ce soit à ce sujet. Afin que vous pesiez, dans la sagesse de Dieu, l'intention et la fin des esprits des hommes, de peur que vous ne fassiez ce qui attirera la main du Seigneur sur vous et contre vous, comme beaucoup l'ont fait avant vous, lorsqu'ils étaient en autorité, et que Dieu a renversé. En celui en qui nous mettons notre confiance, que nous craignons et à qui nous crions jour et nuit, qui nous a entendus, nous entend, et nous entendra, et vengera notre cause. Beaucoup de sang innocent a été versé. Beaucoup ont été persécutés jusqu'à la mort par ceux qui étaient en autorité avant vous, que Dieu a vomi parce qu'ils se sont retournés contre les justes. Considérez donc votre position maintenant que vous avez le jour, et recevez ceci comme un avertissement d'amour pour vous. D'un innocent souffrant enchaîné, et étroitement détenu au château de Lancaster, appelé George Fox lorsque je fus pris et emmené de force de chez Margaret Fell, et accusé de choses d'une si haute gravité, elle en fut préoccupée, voyant là un tort qui lui était fait. Sur quoi elle écrivit les lignes suivantes, et les fit diffuser, avec cette adresse à tous les magistrats, au sujet de l'arrestation injuste et de l'emprisonnement de George Fox à Lancaster. J'informe les gouvernants de cette nation que Henry Porté, maire de Lancaster, a envoyé un mandat avec 4 connétables à ma maison, sans en avoir l'autorité ni l'ordre. Ils ont fouillé ma maison et y ont appréhendé George Fox, qui n'était coupable d'aucune infraction à la loi, ni d'aucun délit envers qui que ce soit dans la nation. Après l'avoir pris et l'avoir conduit devant le dit Henry Porté, nous avons offert de payer une caution, selon ce qu'il demanderait pour sa comparution, afin de répondre à ce qui pourrait être mis à sa charge. Mais l'officier, contrairement à la loi, même s'il l'avait pris légalement, a refusé d'accepter toute caution et l'a enfermé en prison stricte. Après qu'il eut été en prison, on a demandé une copie de son mitimus, ce qui ne doit être refusé à aucun prisonnier, afin qu'il puisse voir ce qui est mis à sa charge. Mais cela lui a été refusé, il n'a pu en avoir de copie, seulement ils ont été autorisés à le lire. Et tout ce qui y était porté contre lui était absolument faux. Il n'est coupable d'aucun des chefs d'accusation qui s'y trouvent, comme cela sera prouvé et manifesté à la nation, que les gouvernants y réfléchissent. Je suis concerné par cette affaire, dans la mesure où il a été appréhendé dans ma maison, et s'il est coupable, je le suis aussi. Je désire que cela soit examiné. Margaret Fell après cela, Margaret Fell résolut d'aller à Londres pour parler au roi de mon arrestation, afin de lui montrer la manière dont elle s'était faite, et l'injustice et les mauvais traitements que j'avais subis. Quand le juge de paix Porté l'apprit, il se vanta qu'il irait l'intercepter. Mais lorsqu'il se présenta devant le roi, lui qui avait été un homme zélé pour le Parlement contre le roi, plusieurs courtisans lui parlèrent du pillage de leur maison, il en eut donc vite assez de la cour et retourna au pays. Pendant ce temps, le geôlier paraissait très craintif et disait qu'il avait peur que le major Porté ne le pendît parce qu'il ne m'avait pas mis dans la cellule obscure. Mais lorsque le geôlier alla le voir après son retour de Londres, il était très abattu et décontenancé et demanda comment j'allais, feignant qu'il trouverait un moyen de me remettre en liberté. Mais ayant été trop loin dans son mitimus, en ordonnant qu'on me garde prisonnier jusqu'à ce que je sois délivré par le roi ou le parlement, il s'était ôté le pouvoir de me relâcher, quand bien même il l'aurait voulu. Il fut encore plus accablé en lisant une lettre que je lui envoyais, car lorsqu'il était au comble de sa rage et de ses menaces contre moi, et qu'il pensait se concilier la faveur du roi en m'emprisonnant, je fus poussé à lui écrire et à lui rappeler combien il avait été féroce contre le roi et son parti, bien qu'à présent il voulût passer pour zélé pour le roi. Entre autres passages de ma lettre, je lui rappelai que lorsqu'il tenait le château de Lancaster pour le Parlement contre le roi, il était si rude et si féroce contre ceux qui favorisaient le roi, qu'il disait « il ne leur laisserait ni chien ni chat s'ils ne lui apportaient pas des provisions à son château ». Je lui demandai aussi à qui étaient ces grands bois de serre qui se trouvaient dans sa maison. Et où avait-il obtenu ceci ainsi que le lambris qu'il avait fait poser dans sa maison? Ne les avait-il pas pris au château de Ronby? À peu près à cette époque, Anne Curti de Reading vint me voir, et comprenant pour quelles raisons j'étais incarcéré, il lui vint aussi d'aller trouver le roi à ce sujet. Son père, qui avait été shérif de Bristol, avait été pendu près de sa propre porte pour avoir tenté de faire revenir le roi. En y réfléchissant, elle avait quelque espoir que le roi pourrait l'entendre en ma faveur. En conséquence, lorsqu'elle retourna à Londres, elle et Margaret Fell allèrent ensemble auprès du roi, qui, quand il apprit de qui elle était la fille, la reçut avec bonté. et sa demande était de faire venir qu'on me fasse monter à Londres et d'entendre lui-même l'affaire. Il lui promit qu'il le ferait et ordonna à son secrétaire d'envoyer un ordre pour qu'on me fasse venir. Mais lorsqu'elles allèrent auprès du secrétaire pour obtenir l'ordre, il dit que cela n'était pas en son pouvoir, qu'il devait procéder selon la loi et que je devais être amené par un habeas corpus devant les juges. Il écrivit donc au juge du King's Bench, signifiant que c'était le souhait du roi que je fusse envoyé par un habeas corpus. En conséquence, un bref fut envoyé et remis au shérif, mais parce qu'il était adressé au chancelier de Lancaster, le shérif s'en déchargea sur lui. De son côté, le chancelier ne voulut pas établir le mandat sur cette base, disant que le shérif devait le faire. Finalement, chancelier et shérif se retrouvèrent, mais étant tous deux ennemis de la vérité, ils cherchèrent un prétexte au retard et en trouvèrent un, dirent-ils dans le bref. Comme il était adressé au chancelier, il disait « George Fox en prison sous votre garde », alors que la prison où je me trouvais n'était pas sous la garde du chancelier, mais du shérif, de sorte que le mot « votre » devait être ça. Sur cela, ils renvoyèrent le bref à Londres, seulement pour faire changer ce seul mot. Quand il fut modifié et redescendit, le shérif refusa de me faire monter, à moins que je ne scelle un écrit à son profit et ne m'engage à payer les frais du scellement et du transport, ce que je refusai, leur disant que je ne scellerais rien pour eux et que je ne m'engagerais pas. Ainsi l'affaire resta en suspense quelque temps, et je demeurai en prison. Pendant ce temps, les assises eurent lieu, mais puisqu'il y avait un bref pour me faire transférer, je ne fus pas présenté au juge. Aux assises, beaucoup vinrent me voir. Je fus poussé à parler aux gens par la fenêtre de la prison et à leur montrer combien leur religion était incertaine et que chaque groupe, lorsqu'il était le plus fort, avait persécuté les autres. Quand la papauté dominait, on avait persécuté les gens parce qu'ils ne suivaient pas la messe. Et ceux qui la soutenaient criaient « C'est le pouvoir supérieur et les gens doivent être soumis au pouvoir supérieur ». Ensuite, ceux qui soutenaient la prière commune, comme on priait, persécutèrent d'autres pour ne pas la suivre, disant « C'est le pouvoir supérieur et nous devons lui être soumis ». Depuis, les presbytériens et les indépendants crièrent chacun « Nous devons être soumis au pouvoir supérieur et nous soumettre au directoire des uns et à la foi d'église des autres ». Ainsi tous, comme les Juifs apostats, ont crié « À l'aide, hommes d'Israël, contre les vrais chrétiens ». Les gens pouvaient donc voir combien ils sont incertains dans leur religion. Mais je les orientais vers le Christ Jésus, afin qu'il soit bâti sur lui, le rocher et le fondement qui ne change pas. C'est dans cet esprit que je leur déclarai ces choses, et ils furent calmes et très attentifs. Ensuite, je publiai un petit écrit concernant la vraie religion, comme suit, « La vraie religion est la vraie règle et la bonne manière de servir Dieu. Et la religion est un pur courant de justice qui découle de l'image de Dieu, et elle est la vie et la puissance de Dieu plantée dans le cœur et l'esprit par la loi de vie. Cela amène l'âme, l'esprit, le souffle et le corps à être conformes à Dieu, le Père des esprits, et au Christ, de sorte qu'ils viennent avoir communion avec le Père et le Fils, et avec tous ses saints anges et ses saints. Cette religion est pure d'en haut, sans souillure devant Dieu, elle conduit à visiter les orphelins, les veuves et les étrangers, et elle garde des souillures du monde. Cette religion est au-dessus de toutes les religions souillées et tachées du monde, qui ne gardent pas des souillures et des taches, mais laissent leurs adeptes impurs, terrestres et tachés, dont les orphelins, les veuves et les étrangers mendient ça et là dans les rues. George Fox, peu après cela, je publie un autre écrit contre la persécution, comme suit, les papistes, les adeptes de la prière commune, les presbytériens, les indépendants et les baptistes se persécutent les uns les autres au sujet de leur propre invention, leur messe, leur prière commune, leur directoire, leur foi d'église qui l'ont faite et façonnée, et non pour la vérité, car ils ne savent pas de quel esprit ils sont, qui persécutent et voudraient que la vie des hommes soit détruite à cause du culte et de la religion, comme le dit le Christ. Ceux qui ne savent pas de quel esprit ils sont, mais qui veulent persécuter et détruire la vie des hommes, et non la sauver, nous ne pouvons confier nos corps, nos âmes ni nos esprits entre leurs mains. Ils ne savent pas eux-mêmes de quel esprit ils sont, et donc ne sont pas dignes de confiance pour les autres. Ils voudraient détruire par une loi, comme les disciples auraient autrefois voulu le faire par la prière, eux qui auraient ordonné que le feu descende du ciel, pour détruire ceux qui ne voulaient pas recevoir le Christ. Mais le Christ les reprit et leur dit, « Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes. » S'ils ne savaient pas de quel esprit ils étaient, ceux-ci, maintenant, savent-ils, eux qui ont persécuté au sujet de la religion depuis les jours des apôtres, eux qui voudraient contraindre par la loi les corps, les biens, les vies, les âmes et les possessions des hommes à entrer sous leurs mains ou les faire souffrir. Ceux qui détruisent la vie des hommes ne sont pas les ministres du Christ, le Sauveur, et puisqu'ils ne savent pas de quel esprit ils sont, les vies, les corps et les âmes des hommes ne doivent pas être confiés entre leurs mains. Et vous qui persécutez, vous n'aurez pas de résurrection à la vie avec Dieu, à moins que vous ne vous repentiez. Mais ceux qui savent de quel esprit ils sont eux-mêmes sont dans un zèle irrépréhensible Et par l'Esprit de Dieu, ils offrent leurs esprits, leurs âmes et leurs corps au Seigneur, qui sont à lui, afin qu'il les garde. George Fox. Pendant que j'étais détenu à la prison de Lancaster, je fus poussé à publier l'écrit suivant, pour affermir l'esprit de ceux qui pourraient être pressés ou troublés au sujet du changement de gouvernement. Tous les amis, que la crainte et la majesté de Dieu vous remplissent. Concernant les changements des temps et des gouvernements, que cela ne trouble aucun de vous, car Dieu y a une œuvre puissante et sa main y est à l'œuvre. Il changera encore, jusqu'à ce que paraisse ce qui doit régner, et en vain les puissances et les armées s'opposeront au Seigneur, car son œuvre déterminée s'accomplira. Mais ce qui est maintenant monté, il est juste devant le Seigneur qu'il en soit ainsi, et il s'en servira. Que nul donc ne murmure, ni ne se défie de Dieu, car il provoquera chez beaucoup un zèle contre l'injustice et pour la justice, au moyen de choses qui sont maintenant laissées à agir pour un temps. Oui, beaucoup dont le zèle était mort revivront, et ils verront leur rechute, et s'en lamenteront amèrement. Car Dieu tonnera du ciel, et il éclatera un bruit puissant, ses ennemis seront stupéfaits, les ouvriers d'iniquité confondus, et tous ceux qui n'ont pas le vêtement de justice seront saisis d'étonnement devant l'œuvre puissante et étrange du Seigneur, qui s'accomplira certainement. Mais, mes petits, ne regardez pas au dehors, demeurez plutôt tranquilles dans la lumière de l'agneau, et il combattra pour vous. Que la main du Tout-Puissant, qui doit briser et diviser vos ennemis et leur ôter la paix, vous préserve et vous garde entier, dans l'unité et la paix avec lui-même, et les uns avec les autres. Amen. George Fox. Je fus aussi poussé à écrire au roi, tant pour l'exhorter à exercer miséricorde et pardon envers ses ennemis, que pour l'avertir de réprimer l'impiété et le relâchement qui s'étaient élevés dans la nation à son retour. Au roi Charles, vous n'êtes pas entré dans cette nation par l'épée, ni par la victoire de la guerre, mais par la puissance du Seigneur. Or, si vous ne vivez pas dans cette puissance, vous ne prospérez pas. Si le Seigneur vous a fait miséricorde et vous a pardonné, et que vous ne faites pas miséricorde et ne pardonnez pas, le Seigneur Dieu n'entendra pas vos prières, ni celles de ceux qui prient pour vous. Si vous n'arrêtez pas la persécution et les persécuteurs, et n'abolissez pas toutes les lois qui soutiennent la persécution au sujet de la religion. Si vous persistez en elles et soutenez la persécution, cela vous rendra aussi aveugle que ceux qui vous ont précédés, car la persécution a toujours aveuglé ceux qui s'y sont engagés. Ceux-là, Dieu les renverse par sa puissance, accomplit sur eux ses hauts faits et apporte le salut à ses opprimés. Si vous portez l'épée en vain et laissez l'ivrognerie, les serments, les jeux, les fêtes de mai et autres abominations et vanités semblables à être encouragées ou demeurées impunies, comme l'érection de mâts de mai, avec l'image de la couronne au sommet, etc. Les nations se tourneront vite comme Sodome et Gomorre, et deviendront aussi mauvaises que l'ancien monde, qui attrista le Seigneur jusqu'à ce qu'il les renverse, et ainsi il vous renversera, si ces choses ne sont pas réprimées. Il y eut rarement autant de méchanceté en liberté qu'en ce jour, comme s'il n'y avait ni crainte ni pouvoir de gouvernement, ce qui n'honore pas un gouvernement, ni n'est une louange pour ceux qui font le bien. Nos prières sont pour ceux qui sont en autorité, afin que, sous leur gouvernement, nous puissions mener une vie pieuse, dans laquelle nous ayons la paix, et que nous ne soyons pas entraînés par eux dans l'impiété. Écoutez et considérez, et faites le bien en votre temps, pendant que vous avez le pouvoir, soyez miséricordieux et pardonnez, c'est là le moyen de vaincre et d'obtenir le royaume du Christ. George Fox. Il fallut longtemps avant que le shérif n'accepte de me faire transférer à Londres, à moins que je ne scelle pour lui une obligation et ne supporte leurs frais, ce que je refusais toujours. Alors ils se consultèrent sur la manière de m'y faire monter, et conclurent d'abord à envoyer un détachement de cavaliers avec moi. Je leur dis, si j'étais un homme tel qu'ils m'avaient représenté, il leur faudrait bien envoyer une ou deux troupes de cavalerie pour me garder. Lorsqu'ils considérèrent quel coût cela représenterait pour eux, ils changèrent d'avis et conclurent de m'envoyer avec la seule garde du geôlier et de quelques huissiers. Mais après réflexion, ils trouvèrent que ce serait encore une grande dépense, ils me firent donc appeler chez le geôlier, et me dirent que si je fournissais une caution garantissant que je serais à Londres tel jour du terme, on me laisserait monter avec quelques-uns de mes propres amis. Je leur dis que je ne fournirais aucune caution et ne donnerais pas une pièce d'argent au geôlier, car j'étais un homme innocent, et il m'avait emprisonné à tort, et avait porté contre moi une accusation mensongère. Néanmoins, dis-je, s'il me laissait monter avec un ou deux de mes amis pour m'accompagner, je pourrais monter et être à Londres tel jour, si le Seigneur le permettait, et s'il le désirait, moi ou n'importe lequel de mes amis qui irait avec moi porterions leur accusation contre moi-même. Voyant qu'il ne pouvait rien obtenir d'autre de moi, le shérif consentit à ce que je monte avec quelques-uns de mes amis, sans autre engagement que ma parole, de comparaître devant les juges à Londres tel jour du terme, si le Seigneur le permettait. Ainsi je fus mis hors de prison, et j'allai à Swarthmore, où je restai 2 ou 3 jours, puis je retournai à Lancaster, puis à Preston, tenant des réunions parmi les amis jusqu'à mon arrivée dans le Cheshire, chez William Gandy, où il y eut une grande réunion en plein air, la maison n'étant pas assez grande pour la contenir. Ce jour-là, la semence éternelle du Seigneur fut mise au-dessus de tout, et les amis furent tournés, lui qui est l'héritier de la promesse. De là j'allai dans le Staffordshire et le Warwickshire chez Anthony Bicliffe, et à Nong Eaton, dans la maison d'une veuve de prêtre, nous eûmes une réunion bénie, où la parole éternelle de vie fut puissamment déclarée, et beaucoup y furent affermis. Puis, poursuivant mon voyage et visitant des assemblées d'amis, au bout d'environ 3 semaines depuis ma sortie de prison, j'atteignis Londres, Richard Robeson et Robert Withers étant avec moi. Quand nous arrivâmes à Charing Cross, une multitude de gens s'étaient rassemblés pour voir brûler les entrailles de certains des juges de l'ancien roi, qui avaient été pendus, éventrés et écartelés. Le lendemain matin, nous allâmes à la chambre du juge Mallet, qui enfilait sa robe rouge pour aller siéger sur d'autres procès des juges du roi. Il était alors très irritable et obstiné, et dit que je pourrais revenir une autre fois. Je revins une autre fois à sa chambre, lorsque le juge Fausté était avec lui, celui qu'on appelait le Lord Chief Justice d'Angleterre. Avec moi se trouvait un certain Skirmarsh, l'un des gentilshommes de la chambre du roi. Après que nous eûmes remis au juge l'accusation portée contre moi, et qu'ils eurent lu ces mots, que moi et mes amis ensanglancions la nation, etc., ils frappèrent de la main sur la table. Sur quoi je leur dis, j'étais l'homme contre lequel cette accusation était portée, mais j'étais aussi innocent de quelque chose de ce genre qu'un enfant nouveau-né, et je l'avais moi-même apporté, et quelques-uns de mes amis sont montés avec moi, sans aucune garde. Jusque-là, ils n'avaient pas prêté attention à mon chapeau, mais maintenant, voyant mon chapeau sur ma tête, ils dirent « Quoi, je restais avec mon chapeau ?» Je leur dis que je ne le faisais par aucun mépris d'eux. Alors ils ordonnèrent à quelqu'un de me l'enlever, et lorsqu'ils eurent fait appeler le maréchal du King's Bench, ils lui dirent « Vous devez prendre cet homme et le mettre en sûreté, mais vous devez lui donner une chambre et ne pas le mettre parmi les prisonniers. » « Monseigneur, dit le maréchal, je n'ai pas de chambre où le mettre, ma maison est si pleine que je ne sais où le loger, sinon parmi les prisonniers. Non, dirent les juges, vous ne devez pas le mettre parmi les prisonniers. » Mais comme il répondait encore qu'il n'avait pas d'autre endroit où me mettre, le juge Fausté me dit, « Voulez-vous comparaître demain vers 10 heures à la barre du King's Bench dans Westminster Hall ?» Je dis, « Oui, si le Seigneur me donne la force. » Alors le juge Fausté dit à l'autre juge, « S'il dit oui, et le promet, vous pouvez vous en tenir à sa parole. » Je fus donc renvoyé. Le lendemain, je comparus à la barre du King's Bench à l'heure fixée, Robert Withers, Richard Robeson et Skirmarsh allant avec moi. On me fit venir au milieu de la cour, et dès que j'entrai, je fus poussé à regarder autour de moi, et me tournant vers les gens, je dis, « Que la paix soit parmi vous !» Et la puissance du Seigneur se leva au-dessus de la cour. L'accusation portée contre moi fut lue publiquement. Le peuple était modéré, et les juges calmes et bienveillants, et la miséricorde du Seigneur était envers eux. Mais quand ils arrivèrent à la partie qui disait, « Que moi et mes amis ensanglancions la nation et soulevions une nouvelle guerre, et que j'étais un ennemi du roi, etc. », ils levèrent les mains. Alors, étendant les bras, je dis, « Je suis l'homme contre lequel cette accusation est portée, mais je suis aussi innocent qu'un enfant concernant cette accusation, et je n'ai jamais appris aucune posture de guerre. » Et dis-je, « Pensez-vous que, si moi et mes amis étions des hommes tels que l'accusation le déclare, j'aurais moi-même apporté cette accusation contre moi-même. Ou que l'on m'aurait laissé venir avec un ou deux de mes amis. Si j'avais été un homme tel que le décrit cette accusation, j'aurais été escorté par 1 ou 2 troupes de soldats à cheval. » Mais le shérif et les magistrats du Lancashire ont jugé bon de nous laisser, moi et mes amis, la faire monter nous-mêmes, presque 200 000, sans aucune garde, ce dont vous pouvez être sûr qu'ils ne l'auraient pas fait s'ils m'avaient considéré comme un homme de cette sorte. Le juge me demanda s'il fallait l'enregistrer, ou ce que je voulais en faire. Je répondis, « Vous êtes juge et capable, je l'espère, de juger en cette matière, faites donc ce que vous voudrez, car je suis l'homme visé par ces accusations, et vous voyez ici que je les ai moi-même apportées. « Faites-en ce que vous voudrez, je m'en remets à vous. » Alors le juge Twisden astérisque commençant à prononcer quelques paroles irritées, j'en appelai au juge Fausté et au juge Mallet, qui m'avaient entendu la veille au soir. Sur quoi ils dirent, « Ils ne m'accusaient pas, car ils n'avaient rien contre moi. » Alors Skirmarsh se leva et dit au juge, « Que c'était le souhait du roi que je sois remis en liberté, puisque aucun accusateur n'était monté contre moi, ils me demandèrent si je voulais m'en remettre au roi et au conseil. » Je dis « Oui, volontiers ». Là-dessus, ils envoyèrent au roi le retour du shérif, qu'il avait fait au bref de Habeas Corpus, contenant la matière portée contre moi dans le mitimus, afin qu'il voie pourquoi j'avais été incarcéré. Le retour du shérif de Lancaster était ainsi. En vertu du bref de Sa Majesté qui m'a été adressé le 6 juin, je certifie qu'avant la réception du dit bref, George Fox mentionné dans le dit bref a été écroué dans la prison de Sa Majesté au château de Lancaster, sous ma garde, en vertu d'un mandat de renvoi porté écuyer l'un des juges de paix de Sa Majesté dans le comté palatin susdit, en date du 5 juin dernier, parce que lui, le dit George Fox, était généralement soupçonné d'être un perturbateur habituel de la paix de cette nation, un ennemi. Et telle est la cause de son arrestation et de sa détention. Néanmoins, j'ai le corps du dit George Fox prêt à comparaître devant Thomas Mallet, chevalier, l'un des juges de Sa Majesté, chargé de tenir audience devant Sa Majesté, en sa chambre à Sergeant's Inn, dans Fleet Street, afin de faire et de recevoir telle chose que le dit juge de Sa Majesté décidera à son sujet en la présente, ainsi qu'il est requis par le bref susdit. George Chatham, esque, shérif. Astérisque, il s'agit du même juge qui condamna de nombreux Quakers, dont Francis Raugill, à l'emprisonnement à vie, où il mourut. Après lecture de ceci et considération de toute l'affaire, le roi, étant satisfait de mon innocence, ordonna à son secrétaire d'envoyer un ordre au juge Mallet pour ma mise en liberté. Ce que le secrétaire fit ainsi, tel est le bon plaisir de Sa Majesté, que vous donniez ordre de relâcher et de remettre en pleine liberté la personne de George Fox, naguère prisonnier dans la prison de Lancaster, et amené là par un habeas corpus. Et la présente signification du bon plaisir de Sa Majesté vous servira de mandat suffisant, donné à Whitehall, le 24 octobre 1660. Edward Nicholas, pour ce Thomas Mallet, chevalier l'un des juges du King's Bench. Lorsque cet ordre fut remis au juge Mallet, il envoya son mandat au maréchal du King's Bench pour ma libération, lequel mandat était ainsi rédigé. En vertu d'un mandat que j'ai reçu ce matin du très honorable Sir Edward Nicholas, chevalier, l'un des principaux secrétaires de Sa Majesté, portant qu'il soit relâché et remis en liberté George Fox, naguère prisonnier dans la prison de Lancaster, et de l'amener ici par habeas corpus, et hier commis à votre garde. Je vous requiers par la présente en conséquence de relâcher et de mettre en liberté le dit prisonnier George Fox, ce dont la présente vous servira de mandat et de décharge. Donné de ma main, le 25 jour d'octobre, l'an de notre Seigneur Dieu 1660, Thomas Mallet à ce John Lantal, chevalier maréchal du King's Bench, ou à son adjoint. Ainsi, après avoir été prisonnier un peu plus de 20 semaines, je fus librement remis en liberté par ordre du roi, la puissance du Seigneur ayant merveilleusement œuvré pour faire reconnaître mon innocence, et porter, qui m'avait fait emprisonner, n'osant point paraître pour soutenir l'accusation qu'il avait faussement portée contre moi. Mais après que l'on sut que j'avais été relâché, une compagnie d'esprits envieux et méchants en fut troublée, et la terreur s'empara du juge porté, car il craignait que je ne tirasse avantage de la loi contre lui pour mon emprisonnement injuste, et que je ne le ruinasse lui, sa femme et ses enfants. Et en effet, quelques personnes en autorité me pressaient d'en faire, de lui et des autres, des exemples, mais je dis que je les laisserais au Seigneur, si le Seigneur leur pardonnait, je ne me troublerais point à leur sujet. Bien que le juge porté fût major de Lancaster et juge de paix, et bien qu'il reçût des juges chez lui, après cela le Seigneur le retrancha, et sa femme fut jetée dans la prison de Lancaster pour dette, là même où son mari m'avait jetée. Le juge Mallet était un homme cruel, et peu après, il mourut. Le juge Fausté devint un homme très amé et cruel, persécutant et frappant d'interdit les amis, ainsi le Seigneur le retrancha aussi. Un autre Lord Chief Justice entra, pire encore que Fausté, persécutant les amis, et le Seigneur le retrancha aussi. Et le Seigneur retrancha aussi ce méchant constable Mounts, le grand constable, et la femme de l'autre constable. Alors je vis la fin du travail que j'avais eu dans ma dure épreuve à Reading, car la puissance éternelle du Seigneur était au-dessus de tout, et sa vérité bénie, sa vie et sa lumière resplendirent sur la nation, et nous eûmes de grandes et glorieuses réunions, très paisibles, et beaucoup affluèrent vers la vérité. Richard Robeson avait été auprès du roi, qui dit « Nul ne nous molestera tant que nous vivrons paisiblement », et le promit sur la parole d'un roi, lui disant que nous pouvions nous prévaloir de sa promesse. Quelques amis furent aussi admis à la Chambre des Lords, pour déclarer leur raison de ne pouvoir payer les dîmes, jurer, ni aller au culte dans la Steeplehouse, ni se joindre à d'autres pour le culte, et on les écouta avec modération, ce que nous n'aurions jamais obtenu d'une telle faveur au jour de l'autre pouvoir. Bien qu'au jour de l'autre pouvoir, deux femmes aient présenté, dans une pétition contre les dîmes, le témoignage des signatures de 7000 femmes, incluant les raisons pour lesquelles elles ne pouvaient soutenir les prêtres qui prenaient les dîmes, et comment Christ avait mis fin aux sacerdoces qui prenaient les dîmes et avait envoyé ses messagers, ministres et apôtres gratuitement, commandant que comme ils avaient reçu gratuitement, ils donnent gratuitement, et que par conséquent elles ne pouvaient soutenir ces prêtres et ces dîmes que Dieu n'avait jamais commandés. Cela était avant le retour du roi, et ses anciens pouvoirs n'avaient rien fait, bien que Cromwell eût promis avant la bataille de Dunbar que, s'il était victorieux sur ses ennemis, Il abolirait les dîmes, ou bien qu'on le roulât dans sa tombe avec infamie. Mais après que le Seigneur lui eut donné la victoire, et qu'il devint le chef du pays, il confirma les anciennes lois selon lesquelles, si les gens ne payaient pas les dîmes, ils seraient forcés d'en payer le triple, sur exécution de deux juges de paix avec deux témoins. Mais lorsque le roi revint, ils déterrèrent Cromwell de sa tombe, le pendirent, lui tranchèrent la tête, puis exposèrent sa tête au bout d'une pique à Westminster Hall astérisque l'enterrant de nouveau à Tyburn, où il fut roulé dans sa tombe avec infamie. Quand je le vis pendu, je vis que ses paroles étaient justement retombées sur lui. Astérisque détail supplémentaire fourni par Soule. Il y avait environ 700 amis en prison, qui avaient été incarcérés sous le gouvernement d'Olivet et de Richard pour des outrages ainsi nommés. Quand le roi revint, il les remit tous en liberté. Il semblait alors qu'il y eût, dans le gouvernement, une inclination et une intention d'accorder aux amis la liberté, parce qu'ils reconnaissaient que nous avions souffert comme ils avaient souffert sous les anciens pouvoirs. Mais lorsque les choses allaient dans ce sens, quelque esprit malpropre ou autre, qui semblait être pour nous, jeta quelque chose en travers pour l'arrêter. On disait qu'un acte avait été rédigé pour confirmer notre liberté, auquel ne manquait que la signature, quand cette tentative impie des hommes de la cinquième monarchie éclata, et mit la ville et la nation en tumulte. C'était dans la nuit du premier jour, et nous avions eu ce jour-là de très glorieuses réunions, où la vérité du Seigneur resplendissait sur tout, et sa puissance était exaltée au-dessus de tout, mais vers minuit les tambours battirent, et le cri fut « aux armes !» Je sortis du lit et le matin je pris un bateau, et débarquant aux marches de Whitehall, je traversai Whitehall à pied. Là, ils me regardèrent étrangement, mais je passai, et j'allai à Pall Mall, où divers amis vinrent à moi, quoiqu'il fût désormais devenu dangereux de traverser les rues. Car à ce moment la ville et les faubourgs étaient en armes, et le peuple et les soldats étaient extrêmement grossiers, à tel point que Henry Fell, allant chez un ami, fut renversé par les soldats, et il eût été tué si le duc d'York ne fût pas passé. De grands méfaits furent commis dans la ville cette semaine-là, et lorsque le premier jour revint, quand les amis allèrent à leur réunion, beaucoup furent faits prisonniers. Je restai à Pall Mall, ayant l'intention d'être à la réunion qui s'y tenait, mais dans la nuit du septième jour, une troupe de cavaliers vint et frappa à la porte. La servante les laissa entrer, et ils se saisirent aussitôt de moi, et parmi eux se trouvait un homme qui avait servi sous le Parlement, il posa la main sur ma poche et demanda « si j'avais des pistolets ». Je lui dis qu'il savait bien que je n'usais ni ne portais de pistolets. Pourquoi me posait-il une telle question, à moi dont il savait que j'étais un homme paisible? D'autres soldats montèrent dans les chambres, et y trouvèrent Skirmish au lit, lequel, bien qu'il fût de la chambre du roi, par amour pour moi était venu et logeait là où je logeais. Lorsqu'ils redescendirent, ils dirent, « Pourquoi emmènerions-nous cet homme avec nous? Nous le laisserons. » « Oh, dit le soldat du Parlement, c'est l'une des têtes, un des principaux meneurs. » Sur quoi les soldats allaient m'emmener, mais Marsh, l'ayant appris, envoya chercher le commandant du détachement, et le pria de me laisser, disant qu'il veillerait à ce que je me présente le matin. Le matin, avant qu'il ne puisse venir me chercher, et avant que la réunion fût rassemblée, une troupe de fantassins arriva à la maison, et l'un d'eux, tirant son épée, la tint au-dessus de ma tête. Je lui demandai, pourquoi il tirait l'épée contre un homme sans armes, alors ses compagnons, honteux, lui dirent de rengainer. Ces soldats m'emmenèrent à Whitehall avant que les cavaliers ne vinssent me chercher. En sortant, plusieurs amis venaient à la réunion, je louai leur hardiesse et leur joie, et les encourageai à persévérer. Quand je fus conduit à Whitehall, les soldats et le peuple étaient extrêmement grossiers, pourtant je leur déclarai la vérité, mais quelques grands personnages passèrent, pleins d'envie, et dirent « Quoi, vous le laissez prêcher, mettez-le dans un lieu où il ne puisse bouger. » Ainsi ils me mirent en ce lieu, et les soldats montèrent la garde sur moi. Je leur dis que, quoiqu'ils pussent enfermer mon corps et le tenir clos, ils ne pourraient pas bâillonner la parole de vie. Quelques en vinrent alors et me demandèrent « Qui j'étais ?» Je leur répondis que j'étais un prédicateur de justice. Après y avoir été retenu 2 ou 3 heures, Manche parla à Lord Gérard, qui vint et leur dit de me remettre en liberté. Le maréchal, quand je fus relâché, réclama des droits. Je lui dis que je ne pouvais lui en donner, et que ce n'était pas notre usage. Je lui demandai comment il pouvait exiger des droits de moi qui étais innocent. Néanmoins, de mon propre mouvement, je leur offris 2 pence pour qu'il en achète à boire, lui et les gardes. Ils prirent cette offre avec dédain et se mirent à crier. Je leur dis que, s'ils ne voulaient pas l'accepter de bon cœur, je ne leur donnerais rien. Ensuite je passai à travers les gardes, la puissance du Seigneur étant sur eux, et après avoir déclaré la vérité aux soldats, je remontai la rue avec 2 colonels irlandais qui venaient de Whitehall jusqu'à une auberge, où beaucoup d'amis étaient prisonniers sous garde. Je priai ces colonels de parler à la garde pour me laisser entrer visiter mes amis prisonniers, mais ils ne voulurent pas. Alors je m'approchai de la sentinelle et la priai de me laisser monter, ce qu'elle fit. Pendant que j'y étais, les soldats retournèrent à Pall Mall pour me chercher, mais ne m'y trouvant pas, ils se dirigèrent vers l'auberge et dirent à tous ceux qui n'étaient pas prisonniers de sortir, ils sortirent donc. Mais je demandai aux soldats à l'intérieur si je pouvais rester encore un peu avec mes amis, ils dirent oui. Je restai et échappai encore à leurs mains. Vers le soir, j'allai à Pall Mall pour voir comment étaient les amis là-bas, puis j'entrai dans la cité. Il y avait alors un grand nombre de perquisitions de maisons pour chercher des personnes. J'allai chez un ami discret, et Richard Robeson était avec moi. Là, nous rédigâmes une déclaration contre les complots et les combats, à présenter au roi et au conseil, mais lorsque nous l'eûmes achevée et envoyée à l'imprimerie pour être imprimée, elle fut saisie et nous la perdîmes. Extrait de Valiant for the Truth. Ce fut la folle flambée des hommes de la cinquième monarchie, une secte apparue au temps de Cromwell, prétendant que le Seigneur Jésus allait bientôt venir établir son trône sur la terre. Sir Henry Vane était l'un des chefs de ce parti, et comme il était alors en prison avec les juges de Charlier, on supposait que cette révolte était en partie causée par le désir de le délivrer. Dans la nuit du 6 du 1er mois 1661, un tonnelier devint homme événé, dont l'esprit était dérangé, enflamma par une prédication véhémente quelques 50 ou 60 visionnaires, et ces hommes se précipitèrent hors de sa réunion séditieuse à Londres, proclamant le roi Jésus. La ville paisible dormait, mais en quelques instants il y eut un grand tumulte. Les milices furent mobilisées, et les instigateurs de l'émeute s'enfuirent à la campagne pendant 2 jours, se cachant dans les bois. Le 9, ils revinrent en plein jour, dans la croyance fanatique que ni les balles ni l'acier tranchant ne pouvaient les blesser. Ils franchirent les portes de la ville, mirent en déroute toutes les milices qu'ils rencontrèrent, et mirent même en fuite la garde du roi. Ils furent finalement vaincus et la plupart faits prisonniers, les autres tombèrent les armes à la main, criant que Christ allait venir sur le champ régner sur la terre. Nonobstant le caractère insignifiant de cette flambée, un sentiment d'incertitude s'abattit sur la nation. On savait que beaucoup de personnes de haut rang appartenaient aux hommes de la cinquième monarchie, et le comte de Clarendon, désireux d'établir une armée permanente, augmenta les craintes du peuple en annonçant le danger d'une grande insurrection. Tous les décides de l'Église d'Angleterre officielle furent regardés avec suspicion, et les amis, quoique innocents de toute participation à des complots, durent supporter le gros de la persécution qui s'ensuivit. Des hommes armés dispersèrent leurs réunions. À la suite de cette insurrection des hommes de la cinquième monarchie, de grands ravages furent commis tant en ville qu'à la campagne, de sorte qu'il était dangereux pour les gens sobres de sortir pendant plusieurs semaines après. Hommes et femmes pouvaient à peine aller et venir dans les rues pour acheter des provisions pour leurs familles sans être maltraités. À la campagne, ils traînaient hommes et femmes hors de leur maison et quelques malades hors de leur lit, en les tirant par les jambes. Les soldats arrachèrent du lit pour l'emmener en prison, un homme qui avait la fièvre et lorsqu'on l'y eut amené, il mourut. Il s'appelait Thomas Patching. Commentaire de l'éditeur du site, le roi réagit de manière excessive à un complot de 50 hommes, mais il se souvenait trop bien que son propre père avait été décapité par les puritains. Ses conseillers s'en servirent dans une tentative de rétablir l'Église d'Angleterre épiscopalienne comme seule religion, au moyen de l'extrait ci-dessous d'une proclamation du roi, interdisant toutes réunions et conventicules illégaux et séditieux, sous prétexte de culte religieux, etc. La raison étant que certains effets pernicieux en ont déjà résulté, au trouble de la paix publique, par insurrection et meurtre, à cause des réunions des anabaptistes et des quakers, et des hommes de la cinquième monarchie, et autres noms semblables. Aucune réunion quelconque des personnes susmentionnées, sous prétexte d'adorer Dieu, ne sera désormais permise ni tolérée en aucun temps, à moins qu'elle ne se tienne dans quelque église ou chapelle paroissiale de ce royaume, ou dans des maisons particulières par les personnes qui y demeurent. Et que toute réunion assemblée quelle qu'elle soit, en vue d'un quelconque culte spirituel et service de Dieu, par les personnes susdites, si ce n'est dans les lieux susdits, seront réputées et sont par la présente déclarées des assemblées illégales, et seront poursuivies. Et nous voulons, et ordonnons à nos juges, qu'ils fassent prêter le serment d'allégeance à toute personne amenée devant eux. Margaret Fell alla auprès du roi et lui dit quel triste ouvrage on faisait dans la ville et la nation, et elle lui montra que nous étions un peuple innocent et paisible, et que nous devions tenir nos réunions comme nous avions coutume de le faire. Quoique nous souffrissions, mais que c'était à lui de veiller à ce que la paix fût maintenue, afin qu'aucun sang innocent ne fût versé. À présent, les prisons étaient remplies partout d'amis et d'autres, dans la ville et à la campagne, et l'on avait créé des postes pour fouiller tous les passants à la recherche de lettres, de sorte que nul ne pouvait voyager sans être fouillé. Pourtant, nous apprîmes que plusieurs milliers de nos amis avaient été jetés en prison dans diverses parties de la nation, et Margaret Fell en porta le compte au roi et au conseil. La semaine suivante, nous eûmes le compte de plusieurs milliers d'autres qui avaient été jetés en prison, et elle alla les présenter aussi au roi et au conseil. Ils s'étonnaient que nous puissions avoir de tels renseignements, puisqu'ils avaient donné des ordres si stricts d'intercepter toutes les lettres, mais le Seigneur l'ordonna de telle sorte que nous eûmes un décompte exact, malgré tous leurs barrages et leurs fouilles. Dans le profond sentiment que j'avais des cruelles souffrances que les amis enduraient, et de leur innocence envers Dieu et les hommes, je fus poussé à leur envoyer l'épître suivante, comme une parole de consolation, et à les exhorter à faire remonter un compte de leurs souffrances. Mes chers amis, dans la semence immortelle de Dieu, qui plaidera sa propre innocence, vous qui êtes héritiers d'un royaume éternel, incorruptible, et d'un monde et de richesses qui ne se flétrissent point, que la paix et la miséricorde soient multipliées parmi vous au milieu de toutes vos souffrances. Vous, dont le dos n'était pas rétif, mais dont les cheveux et les joues étaient prêts, vous qui n'avez jamais craint les souffrances, sachant quelles sont votre part en ce monde, depuis la fondation duquel l'agneau a été immolé, et qui règne dans la gloire qu'il avait avec son Père avant que le monde fût. Il est votre roc au milieu de tous les flots et de toutes les vagues, sur lequel vous pouvez vous tenir en sûreté, le visage joyeux, voyant le Seigneur Dieu de toute la terre de votre côté. Ainsi, dans la semence de Dieu, qui était avant le monde injuste où sont les souffrances, vivez et nourrissez-vous, où l'on sent le pain de vie, sans sujet de plainte de faim ou de froid. Amis, je voudrais que vous fassiez remonter un compte de vos souffrances et de l'état des choses parmi vous, vous qui êtes ou avez été récemment en prison, afin que cela puisse être remis au roi et à son conseil, car ici les choses vont assez bien après la tempête. George Fox, Londres, le 28/11/1660. Ayant perdu notre précédente déclaration à l'imprimerie, nous nous hâtâmes et en rédigâmes une autre contre les complots et les combats, la fîmes imprimer et en envoyâmes quelques exemplaires au roi et au conseil, d'autres furent vendus çà et là dans les rues et à la bourse. Cette déclaration fut réimprimée quelques années plus tard, et la voici, une déclaration du peuple inoffensif et innocent de Dieu, appelée Quakers contre toute sédition, les comploteurs et les combattants dans le monde, afin d'ôter aux magistrats et aux peuples du royaume tout motif de jalousie et de soupçon au sujet des guerres et des combats, présentée au roi le 21/11/1660. Notre principe et nos pratiques ont toujours été de chercher la paix et de la poursuivre, de suivre la justice et la connaissance de Dieu, recherchant le bien et le bien-être, et faisant ce qui tend à la paix de tous. Nous savons que les guerres et les combats procèdent des convoitises des hommes, comme Jacques, chapitre 4:1-3, dont le Seigneur nous a rachetés et ainsi nous a retirés de l'occasion de la guerre. L'occasion de la guerre, et la guerre elle-même, naît de la convoitise dans laquelle des hommes envieux, qui s'aiment eux-mêmes plus qu'ils n'aiment Dieu, convoitent, tuent, et désirent avoir la vie ou les biens d'autrui. Tous principes et pratiques sanguinaires, quant à nos fondements, nous les renions entièrement, ainsi que toutes guerres extérieures, crêles et combats avec des armes extérieures, pour quelque fin que ce soit, ou sous quelque prétexte que ce soit, tel est notre témoignage à l'égard du monde entier. Et si quelqu'un objecte et dit, « Mais quoi que vous disiez maintenant que vous ne pouvez combattre ni prendre les armes en aucune manière », pourtant, si l'esprit vous y pousse, alors vous changerez de principe, vous vendrez votre manteau et achèterez une épée, et vous combattrez pour le royaume de Christ. À cela nous répondons, Christ dit à Pierre, remets ton épée à sa place, quoiqu'il eût dit auparavant que celui qui n'avait pas d'épée pouvait vendre son manteau et en acheter une, pour l'accomplissement de la loi et de l'écriture, pourtant ensuite, lorsqu'il lui commandait de la remettre, il dit, celui qui prend l'épée périra par l'épée. Et Christ dit à Pilate, ne sais-tu pas que je puis maintenant prier mon Père, et qu'il me donnera sur le champ plus de 12 légions d'anges, et cela pouvait satisfaire Pierre, après qu'il eut remis son épée, lorsque Christ lui dit, « Celui qui l'a prise périra par elle, ce qui nous satisfait. » Matthieu 26:52-53. Dans l'Apocalypse il est dit, « Celui qui tue par l'épée périra par l'épée, et voici la foi et la patience des saints. Ainsi le royaume de Christ n'est pas de ce monde, c'est pourquoi ses serviteurs ne combattent pas, comme il le dit à Pilate, le magistrat qui le crucifia. » Et ne regardait-on pas Christ comme un excitateur de sédition, et ne pria-t-il pas, pardonne-leur. Mais ainsi il est que nous sommes comptés parmi les transgresseurs, et parmi les combattants, afin que les Écritures soient accomplies. L'Esprit de Christ, par lequel nous sommes conduits, n'est pas changeant, de sorte qu'il nous commanderait une fois de nous détourner d'une chose comme d'un mal, puis nous pousserait de nouveau à y revenir. Nous savons, et témoignons avec certitude au monde que l'Esprit de Christ, qui nous conduit dans toute la vérité, ne nous poussera jamais à combattre ni à faire la guerre contre aucun homme avec des armes extérieures, ni pour le royaume de Christ, ni pour les royaumes de ce monde. Premièrement, parce que le royaume de Christ, Dieu l'exaltera, selon sa promesse, et le fera croître et fleurir en justice, non par la force ni par la puissance de l'épée extérieure, mais par mon esprit, dit le Seigneur Zacharie 4:6. Ainsi ceux qui se servent d'une arme pour combattre pour Christ, ou pour établir son royaume ou son gouvernement, nous renions, quant à cela, leur esprit, leurs principes et leurs pratiques. Deuxièmement, nous désirons ardemment et attendons que par la parole de la puissance de Dieu et son opération efficace dans le cœur des hommes, les royaumes de ce monde deviennent les royaumes du Seigneur et de son Christ, et qu'il gouverne et règne dans les hommes par son esprit et sa vérité, afin que tous les peuples, hors de tous jugements et professions différents, soient amenés à l'amour et à l'unité avec Dieu et les uns avec les autres, et que tous viennent avoir accompli les paroles du prophète qui a dit « Une nation ne lèvera pas l'épée ». Ésaïe 2, 4, Michée 4, 3 « Ainsi nous, que le Seigneur a appelés à l'obéissance de sa vérité, avons renié les guerres et les combats et ne pouvons plus les apprendre. C'est là un témoignage certain adressé au monde entier de la vérité de nos cœurs sur ce point, afin que, comme Dieu persuade le cœur de chaque homme à croire, il puisse le recevoir. Car nous n'avons pas, comme d'autres, recouru à des fables habilement inventées, et nous n'avons jamais renié en pratique ce que nous avons professé en principe, mais avec sincérité et vérité, et par la parole de Dieu, nous avons travaillé à être manifestés à tous les hommes, afin que nous et nos voix puissions être attestés dans le cœur de tous. Et tandis que toutes sortes de mal a été faussement dit de nous, nous déclarons ici la simple vérité de nos cœurs, pour ôter l'occasion de ce scandale, afin que, étant innocents, nous ne souffrions pas pour les offenses d'autrui, ni ne soyons livrés en proie aux volontés des hommes pour ce dont nous n'avons jamais été coupables. Mais que dans la droiture de nos cœurs nous puissions, sous l'autorité ordonnée par Dieu pour punir les malfaiteurs et louer ceux qui font le bien, vivre une vie paisible en toute piété et honnêteté. Car quoique nous ayons toujours souffert, et que maintenant nous souffrions plus abondamment encore, nous savons que c'est pour la justice, car notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience que c'est dans la simplicité et la sincérité de Dieu, non avec une sagesse charnelle, mais par la grâce de Dieu, que nous nous sommes conduits dans le monde. 2 Corinthiens 1, 2. Ce qui, pour nous, est un témoignage pour convaincre nos ennemis, car nous pouvons dire au monde entier, nous n'avons fait tort à personne, nous n'avons usé d'aucune force ni violence envers qui que ce soit, nous n'avons été trouvés dans aucun complot, ni coupables de sédition. Quand nous avons été lésés, nous n'avons pas cherché à nous venger, nous n'avons pas opposé de résistance à l'autorité, mais là où nous ne pouvions obéir pour cause de conscience, nous avons souffert davantage que tout autre peuple de la nation. Nous avons été comptés comme des brebis pour la boucherie, persécutés et méprisés, frappés, lapidés, blessés, mis au cep, fouettés, emprisonnés, arrachés des synagogues, jetés dans des cachots et des prisons bruyantes, où beaucoup sont morts enchaînés, séparés de nos amis, privés de la nourriture nécessaire pendant de nombreux jours, avec d'autres cruautés semblables. Et la cause de toutes ces souffrances n'est pas quelque mal, mais des choses relatives au culte de notre Dieu et à l'obéissance à ses exigences. Pour cette cause, nous livrerons librement nos corps en sacrifice plutôt que de désobéir au Seigneur, sachant que, comme le Seigneur nous a gardés innocents, il plaidera notre cause lorsqu'il n'y aura personne sur la terre pour la plaider. Ainsi, par obéissance à sa vérité, nous n'aimons pas notre vie jusqu'à la mort, afin d'accomplir sa volonté et de ne faire tort à personne en notre génération, mais de chercher le bien et la paix de tous les hommes. Celui qui nous a commandé de ne point jurer du tout, Matthieu 5, 34, nous a aussi commandé de ne point tuer, Matthieu 5, 21. De sorte que nous ne pouvons ni tuer les hommes, ni jurer pour ou contre eux. Voilà à la fois notre principe et notre pratique, et cela depuis le commencement, si bien que si nous souffrons, comme suspectés de prendre les armes ou de faire la guerre contre quiconque, cela est sans aucun fondement de notre part, car cela n'a jamais été dans nos cœurs depuis que nous avons reconnu la vérité de Dieu. Et nous ne le ferons jamais parce que c'est contraire à l'esprit de Christ, à sa doctrine et à la pratique de ses apôtres, et même contraire à celui pour qui nous souffrons toutes choses et endurons toutes choses. Et quoique des hommes viennent contre nous avec des gourdins, des bâtons, des épées dégainées, des pistolets armés, et qu'ils nous frappent, taillatent et maltraitent, nous ne leur avons jamais résisté, mais leur avons offert nos cheveux, nos dos et nos joues. Ce n'est pas honneur pour la virilité ni pour la noblesse que de se ruer, avec des armes, sur un peuple inoffensif qui ne lève pas la main contre eux. Considérez donc ces choses, vous hommes d'intelligence, car les comploteurs, les fauteurs d'insurrection, les tumultueux et les combattants, courant avec épée, gourdin, bâton et pistolet, les uns contre les autres, nous disons qu'ils sont du monde, et qu'ils ont leur fondement dans ce monde injuste, depuis la fondation duquel l'agneau a été immolé, lequel agneau nous a rachetés de ce monde injuste. Nous n'en sommes pas, mais sommes héritiers d'un monde sans fin, d'un royaume où rien d'incorruptible n'entre. Nos armes sont spirituelles, non charnelles, mais puissante par Dieu pour renverser les forteresses du péché et de Satan, auteur des guerres, des combats, des meurtres et des complots. Nos épées sont brisées en socs de charrue, et nos lances en serpe, comme il a été prophétisé en Michée 4, 3. Nous ne pouvons donc plus apprendre la guerre, ni nous lever contre une nation ou un royaume avec des armes extérieures, quand bien même vous nous auriez comptés parmi les transgresseurs et les comploteurs. Le Seigneur connaît notre innocence en cela, et il plaidera notre cause auprès de tous les peuples de la terre au jour de leur jugement, lorsque tous les hommes recevront selon leurs œuvres. C'est pourquoi dans l'amour, nous vous avertissons pour le bien de vos âmes, ne faites pas tort à l'innocent, ni au petit de Christ qu'il tient en sa main et qu'il chérit comme la prunelle de son œil. Ne cherchez pas à détruire l'héritage de Dieu, ni à retourner vos épées contre ceux pour qui la loi n'a pas été faite, c'est-à-dire les justes, mais pour les pécheurs et les transgresseurs, afin de les contenir. Car ne sont ni artisans de paix ni amis des ennemis, et ne peuvent vaincre le mal par le bien, ceux qui font tort à ceux qui vous sont amis, à vous et à tous les hommes, et qui souhaitent votre bien et le bien de tous les peuples de la terre. Si vous nous opprimez, comme ils opprimèrent les enfants d'Israël en Égypte, si vous nous opprimez comme ils opprimèrent au temps où Christ naquit, et comme ils opprimèrent les chrétiens au temps primitif, nous pouvons dire « Que le Seigneur vous pardonne, et laissez au Seigneur le soin de traiter avec vous sans nous venger. » Si vous dites, comme le conseil dit à Pierre et à Jean, « Vous ne devez plus parler en ce nom », et si vous nous traitez comme on traita les trois enfants dont parle Daniel, Dieu est le même qu'il a toujours été, vivant au siècle des siècles, et qui tient l'innocent dans ses bras. Ô amis, n'offensez pas le Seigneur et ses petits, n'affligez pas son peuple, mais considérez et soyez modérés. Ne vous précipitez pas à la hâte dans les choses, mais ayez égard et considérez la miséricorde, la justice et le jugement, c'est là le chemin pour prospérer et obtenir la faveur du Seigneur. Nos réunions furent arrêtées et dispersées au jour d'Olivet, sous prétexte de comploter contre lui, au jour du comité de sûreté, on nous regarda comme des comploteurs pour faire revenir le roi Charles, et maintenant nos réunions paisibles sont dites séditieuses. Oh, que les hommes perdent la raison et agissent à l'encontre de leur propre conscience, sachant que nous avons souffert toutes choses, et que nous avons été comptés comme comploteurs tout du long, quoique nous ayons toujours déclaré contre cela, tant de vive voix que par l'imprimé, et que nous sommes nets de toutes choses semblables. Nous avons souffert, tout du long parce que nous ne voulions pas prendre des armes charnelles pour combattre qui que ce soit, et l'ont fait de nous une proie parce que nous sommes les agneaux innocents de Christ et ne pouvons nous venger. Ces choses sont laissées sur vos cœurs à considérer, car nous sommes hors de toutes ces choses dans la patience des saints, et nous savons, comme Christ l'a dit, « Celui qui prend l'épée périra par l'épée. » Matthieu 26, 52 et Apocalypse 13, 10. Ceci est publié par le peuple appelé Quakers pour satisfaire le roi et son conseil, et tous ceux qui ont quelque jalousie à notre égard, afin qu'on ôte tout sujet de soupçon et que notre innocence soit éclaircie. Post-scriptum, quoique nous soyons comptés parmi les transgresseurs, et livrés à des hommes rudes et sans miséricorde, par qui nos réunions sont dispersées, où nous nous édifions les uns les autres dans notre très sainte foi et prions ensemble le Seigneur qui vit éternellement, pourtant il est notre défenseur en ce jour. Le Seigneur a dit, « Ceux qui craignaient son nom s'entretenaient souvent ensemble, comme dans Malachie, ils étaient comme ses joyaux. Pour cette cause, et sans aucun mal faire, sommes-nous jetés dans des trous, des cachots, des maisons de correction, des prisons, n'épargnant ni vieux ni jeunes, hommes ni femmes, et livrés en proie aux yeux de toutes les nations, sous prétexte de sédition, de sorte que tout peuple grossier se rue sur nous pour s'en emparer. Pourquoi nous disons que le Seigneur pardonne à ceux qui nous ont ainsi traités, lui qui fait et fera que nous puissions souffrir, et jamais nous ne lèverons la main contre aucun homme qui nous use ainsi, mais que le Seigneur ait pitié d'eux. Car comment leur serait-il possible de nous dédommager du tort qu'ils nous ont fait ? Eux qui, à toutes les nations, nous ont décrits partout comme séditieux ou comploteurs, nous qui n'avons jamais été comploteurs contre aucun pouvoir ni aucun homme sur la terre depuis que nous avons connu la vie et la puissance de Jésus-Christ manifestée en nous, lui qui nous a rachetés du monde et de toutes les œuvres des ténèbres, et des comploteurs qui s'y trouvent, par quoi nous connaissons l'élection d'avant la fondation du monde. Ainsi nous disons, que le Seigneur ait pitié de nos ennemis, et qu'il leur pardonne ce qu'ils nous ont fait. Ô, faites comme vous voudriez qu'on vous fît, faites à tous les hommes comme vous voudriez qu'ils vous fassent, car ce n'est là que la loi et les prophètes. Tous complots, insurrections et réunions séditieuses, nous les renions, les sachant être du diable, le meurtrier sur lequel nous triomphons en Christ, qui était avant qu'ils fussent. Et toutes guerres et combats avec des armes charnelles, nous les renions, nous qui avons l'épée de l'esprit, et tous ceux qui nous font tort, nous les laissons au Seigneur. Ceci vise à purifier notre innocence de cette calomnie jetée sur nous, que nous sommes séditieux ou comploteurs, ajoutés lors de la réimpression. Lecteur courtois, ceci était notre témoignage il y a plus de 20 ans, et depuis lors nous n'avons pas été trouvés agissant contrairement à celui-ci, et jamais nous ne le serons, car la vérité, qui est notre guide, est immuable. Ceci est maintenant réimprimé pour les hommes de cet âge, dont beaucoup étaient alors des enfants, et demeure comme notre témoignage certain contre tout complot et tout combat avec des armes charnelles. Et si quelques-uns, en s'écartant de la vérité, agissaient ainsi, ceci est notre témoignage dans la vérité contre eux, et il demeurera sur eux, et la vérité sera nette d'eux. Commentaire de l'éditeur du site. Les Quakers d'Ojudhu ont également modifié leur témoignage de paix, le faisant passer des appels personnels et soumis des premiers Quakers phares à des politiques gouvernementales persécutrices, à une opposition et des protestations organisées de groupes contre les politiques gouvernementales de guerre, et de leur refus pacifique de porter les armes fondées sur leur conscience individuelle, à une confrontation agressive avec d'autres qui, eux, portent les armes. Ainsi leurs idéaux d'origine ont été tordus. Oubliant les témoignages des premiers Quakers contre le mensonge, les maudes gaspilleuses, l'avidité, l'immoralité sexuelle, les serments, les faux prophètes, etc. pour lesquels ils furent grandement persécutés, les Quakers des temps ultérieurs préfèrent plutôt descendre dans les rues pour s'opposer aux forces armées de leur gouvernement, concluant manifestement que le seul mal de l'homme est de porter des armes, en contraste saisissant avec les avertissements et les définitions du mal dans la Bible. Pour lire la véritable position des premiers Quakers sur une nation portant les armes, voir l'écrit d'Isaac Pennington, Protection of the Innocent, Back Next.